vous présente tous mes vœux pour cette année, les vœux de travail dont il va être question ce soir. Donc nous avons ce soir la région sud-ouest qui est représentée par Sidi, analyste à Toulouse, et Colette Solaire de Paris. Sidi Ascofaré, pardon, et Colette Solaire, j'ai dit Colette Solaire, sinon, pardon. Du coup, je suis perdue. Les interventions ont été modifiées par rapport à la présentation initiale. Donc, Sidi Ascofaré va commencer avec le titre « Que veut dire analysant ?» et Colette Solaire va suivre avec le titre, en point d'interrogation aussi, « Travailleur ».
Merci. Oula. Bien. Donc, en guise de contribution à notre séminaire d'école,
ah, merci.
J'ai fini mes feuilles.
Ah, voilà.
On fait le ménage.
Merci. Vas-y.
Bien. Je disais donc qu'en guise de contribution à notre séminaire d'école, je me suis permis d'infléchir légèrement le titre générique du travail. Qu'est-ce qu'un analysant ? En proposant, que veut dire analysant ? Alors, ce déplacement, soit dit en passant, n'est à entendre ni comme une correction, ni comme une préférence donnée au sens, au détriment de l'être. C'est un déplacement qui s'est, pour ainsi dire, imposé à moi pour deux raisons. La première est mineure. Elle tient à la signification, voire à la lexicalisation du terme. En effet, à simplement consulter le dictionnaire, le grand Robert par exemple, on réalise l'écart qui peut exister entre la langue commune et la nôtre. En effet, au mot analysant correspondent deux sens. Un sens dit attesté, qui veut dire qui analyse, et analysant qui analyse, et ce peut être aussi bien une langue qu'une méthode, par exemple. Et un sens présenté justement comme non attesté. Et c'est alors que le dictionnaire dit qu'il s'agit de personne qui est en analyse, de personne qui se fait psychanalyser. La seconde raison me paraît la plus importante, en ce qu'elle concerne plus directement la psychanalyse et l'idée que l'on se fait de son opération et de ses acteurs. Si, comme je l'ai indiqué dans mon argument, la proposition lacanienne de psychanalysant à la place de psychanalyser, d'analyser, devenu analysant donc, a été presque unanimement adoptée par toute la communauté psychanalytique de langue française, j'ai souhaité savoir pourquoi quelques rares collègues l'ont contesté, voire rejeté. Et parmi ces derniers, j'ai choisi de m'arrêter à celui qui a le plus clairement argumenté son opposition. Il s'agit d'un analyste que vous connaissez sans doute, de l'IPA, de la SPP, qui s'appelle Francis Pache, qui, dans un entretien avec Denis Riba, disait ceci. Les dispositions intérieures de l'analyste, résultat, je l'espère, de sa propre analyse et de ses propres efforts, doivent faire qu'il n'y ait pas la possibilité d'une relation d'égal à égal avec l'analyste. Il doit toujours subsister une verticalité, une hiérarchie, une dominance dans la fonction que doit exercer l'analyste, avec ce que cela suppose de disposition chez lui à la remplir et ce que cela suppose chez l'analysé à supporter cette fonction. En un mot, l'analyste doit toujours, je cite toujours, fâche, tout au long de l'analyse, remplir une fonction parentale de la relation bébé-nouveau-né, mère, à la relation fils-adolescent avec son père. Et c'est en ce qu'il dit ceci qui a retenu mon attention. C'est pour cela, écrit-il, dit-il, que je suis plus que réticent, Gatkin aussi, je crois, et d'autres, à l'usage du terme d'analyse. Comment peut-on soutenir que l'analyser, le patient, doit être désigné par ce terme? Qu'est-ce que cela veut-il dire? Cela efface immédiatement, poursuit-il, tout décalage, toute hiérarchie entre l'analyste et l'analysé. Car si l'analysé est analysant, l'analyste n'est pas moins analysant que l'analysant. C'est vrai que progressivement, et c'est le but de l'analyse, l'analysé devient de plus en plus analysant, mais au point de départ et durant tout le cours du traitement, il est analysé. Il est analysé, il subsiste jusqu'à la fin une différence, un décalage. Excusez-moi de la citation trop longue, mais elle est importante pour le propos que je vais tenir. Alors, je dirais que tout est dit ou presque. Je ne m'attarderai pas à commenter ou à critiquer, ce serait beaucoup trop facile, ce que dit Francis Pache. Je lui suis cependant reconnaissant de deux choses. D'abord, de ce que son propos me permet de savoir pourquoi je ne suis pas à la SPP et en quoi l'enseignement de Lacan constitue une véritable option dont les signifiants ne servent pas seulement à décrire les phénomènes cliniques, mais qui délivre une authentique orientation dans la pratique de la psychanalyse. Ensuite, je suis reconnaissant à Francis Pache de la question qu'il formule à propos du terme analysant. Du terme d'analysant, qu'est-ce que cela veut-il dire? Alors, je fais donc mienne cette question et je vais m'attacher à essayer de saisir ce que analysant veut dire et pourquoi pas les raisons de son succès. Alors, si en 1962, un analyste estimé de Lacan, mais relativement éloigné de ses vues, Donald Winnicott, pouvait écrire « Il est évident que le travail de l'analyse est effectué par le patient », c'est sans doute parce qu'une seule et même question a pu continuer à se poser, à toutes les communautés psychanalytiques. Cette question, je la formulerai à ma manière, en quoi consiste l'invention de Freud, l'invention freudienne de la psychanalyse, et surtout en quoi cette dernière se distingue-t-elle des pratiques, disons cliniques pour faire large, qui lui préexistaient. Alors, normalement, une conception juste de la psychanalyse conduirait aussi bien à définir ce qu'est un analysant et ce qu'est un analyste. En l'occurrence, on remarquera que la formule de Winnicott est tout à fait symptomatique. Au sens de la formation de compromis. En ce que cette formule fait tenir ensemble l'origine médicale de la psychanalyse, avec le terme de patient, et le côté subversif de celle-ci, de la psychanalyse, contenu dans l'idée que l'analyse est un travail et que ce travail est effectué non par l'agent du discours, mais par le patient. Nous avons donc là, déjà présente, la thèse de l'analysant travailleur, de l'analysant qui est un patient actif et producteur, ce dont Colette Solève nous parlera tout à l'heure. Comme je lui disais tout à l'heure, je chauffe la salle, ce qu'elle va dire tout à l'heure. Alors, pour ma part, j'aimerais plutôt axer mon intervention de ce soir sur le mouvement qui, de Freud à Lacan, va déboucher sur l'émancipation de la psychanalyse, du discours médical, et constituer la psychanalyse comme un discours au sens de Lacan, c'est-à-dire un lien social sui generis. J'ai en effet l'idée que c'est la catégorie lacanienne de discours de l'analyste qui permet le mieux de donner statut à ce qu'est vraiment la psychanalyse, ce qu'est l'analyse, et du coup, à définir le plus justement possible ce qu'est un analysant et ce qu'est la place, la fonction d'un analyste. Partons maintenant de quelque chose que nous avons un petit peu tendance à oublier. pendant très longtemps, Freud a présenté, décrit et identifié ce qui se passait dans une analyse dans les termes stricts de la relation médicale. Il suffirait d'ouvrir n'importe quelle observation clinique de Freud ou n'importe lequel de ses articles cliniques ou techniques, entre guillemets, pour vérifier que sous sa plume, l'analyste est toujours un médecin, l'analysant un patient, si ce n'est un malade, et l'analyse un traitement. D'ailleurs, les titres de ses écrits techniques sont suffisamment éloquents. De la psychothérapie, conseil aux médecins sur le traitement analytique, le début du traitement, les voies nouvelles de la thérapeutique analytique, etc. Il me semble qu'à cela, il y a bien évidemment des raisons historiques, des raisons conjoncturelles et parfois des raisons politiques. Peut-être que Freud aurait poursuivi dans cette voie s'il ne s'était confronté en 1926 à la question de l'analyse laïque, l'analyse profane, et donc à la nécessité qui s'est imposée à lui de devoir, ne serait-ce que pour défendre ses disciplines aux médecins, de devoir dire en quoi la psychanalyse se distinguait de la médecine, voire en quoi ces deux pratiques s'opposaient. Alors, si Freud s'est attaché à épeler pour son interlocuteur impartial, comme il l'appelle, en quoi le médecin analyste n'est plus tout à fait un médecin et en quoi la maladie qu'il traite, la névrose, n'est pas une maladie comme les autres, il dit peu ou pas assez sur le malade, entre guillemets, lui-même, sur le patient. Donc, il ne développe pas, il ne donne pas d'éléments théoriques concernant ce qu'est l'analysant. Il ne dit pas ce que analysant veut dire. Ce qu'il explicite, en revanche, c'est en quoi consiste, selon lui, le dit traitement. Je rappelle d'une phrase, il ne se passe entre eux rien d'autre que ceci, ils parlent ensemble, l'analyse n'utilise aucun instrument, pas même pour l'examen, il ne prescrit pas davantage de médicaments. C'est ce que Lacan reprend dans son discours propre. Alors, que l'analyse soit réductible en dernière instance à un échange de paroles ne veut nullement dire pour Freud qu'elle ne conserve rien de la relation médicale. Ce qu'elle en retient, c'est ce que Pache, que je citais plus haut, nommait, entre guillemets, hiérarchie, et que nous pouvons appeler plus précisément avec Lacan une dissymétrie, celle que l'on retrouve d'ailleurs au cœur de tous les discours institués. Les discours institués des quatre discours de Lacan. Au fondement de cette dissymétrie, il y a pour Freud le transfert qui se trouve au principe de l'influence, de ce qu'il appelle l'influence personnelle de l'analyste. Eh bien, on peut dire qu'une certaine conception magistrale de la psychanalyse, si je peux l'appeler comme ça, en a tiré une certaine caractérisation des deux positions en jeu, activité, passivité, supérieur, inférieur, contre transfert, transfert, bref, analyste, analysé. À la limite, on peut dire que dans une telle perspective, ce serait l'analyste qui serait le sujet dans l'expérience ou le sujet de l'expérience. Je vais y revenir. On va voir la subversion qu'il y a entre Freud et Lacan concernant ce point, qui est le cœur, en réalité, de mon exposition. On peut dire que bien avant l'intervention de Lacan dans le champ analytique, n'était pourtant déjà pas l'option freudienne.
Manifestement. Pourquoi ?
Simplement parce que l'autorité que l'analyste tient du transfert, loin d'en faire l'actif ou l'activiste de l'expérience ou dans l'expérience, est ce qui l'autorise, ce qui autorise l'analyste à poser l'acte d'engager
son patient dans la tâche analysante.
On peut dire qu'ici, on peut mesurer combien les mots de Freud résonnent avec ceux de Lacan. Le névrosé se met au travail, dit Freud, parce qu'il a foi en l'analyste et il a foi en lui parce qu'il acquiert à l'égard de la personne de l'analyste une attitude sentimentale particulière.
Citation.
On remarquera ici qu'en une phrase, Freud nous livre une définition à triple détente de ce qu'est pour lui un analysant. C'est un travailleur, déjà on n'écoute pas, un croyant et un homme heureux. Mais c'est l'analysant qui est travailleur dans cette définition-là. Croyant et amoureux. Je veux dire que l'inverse n'est pas vrai. Tout travailleur, tout croyant et tout amoureux ne sont pas nécessairement, bien sûr, des analysants. Dès lors, on ne peut éviter la question. Comment, à quel moment et à quelles conditions devient-on analysant? Le reste-t-on, une fois qu'on l'est devenu? Peut-on sortir de sa position analysante et devenir autre chose? Et si on le reste analysant, c'est au prix de quel changement? Au prix de quelle métamorphose? Les questions auxquelles nous ramène la question, donc, ce qu'est un analysant, on le voit, sont celles de l'entrée en analyse, du travail analytique, de la fin de l'analyse et de son au-delà. D'ailleurs, Freud, lui, ne disait-il pas qu'au fond, il en est de l'analyse comme du jeu des échecs. Les manœuvres du début et de la fin permettent de donner de ce jeu une description schématique complète, tandis que son immense complexité, dès après le début de la partie, s'oppose à toute description. Au fond, on peut considérer que Freud n'a cessé à sa façon de poser et de tenter de répondre à la question de savoir ce qu'est un analysant. Cette hypothèse se vérifie, semble-t-il, à simplement scruter le travail considérable qu'il a consacré aux deux extrémités de l'expérience psychanalytique, à son début et à sa fin. J'ai évoqué il y a peu le début du traitement, titre suffisamment indicatif. À l'autre extrémité, il y a bien sûr l'analyse avec fin et l'analyse sans fin. Et entre les deux, il y a toute l'œuvre clinique de Freud, mais tout particulièrement l'article sur la genèse d'un cas d'homosexualité féminine. Si je convoque ces trois textes, c'est que chacun nous apprend quelque chose de décisif pour éclairer directement ou latéralement ce qu'est un analysant. Ce que nous apprend le début d'un traitement, c'est que le début de l'analyse n'est pas à confondre avec le premier rendez-vous chez le psychanalyste cher à Maud Manier. C'est même pourquoi Freud invente le dispositif du traitement à l'essai, dispositif qui inspirera, pardon, à Lacan, semble-t-il, celui des entretiens préliminaires. Si Freud insiste beaucoup sur la fonction diagnostique qu'il assigne à ce traitement d'essai, il apparaît assez vite, à le lire, qu'au-delà du souci diagnostique se profile la question de l'analyse proprement dite, c'est-à-dire la question de l'aptitude du candidat à l'analyse à s'engager dans le travail analytique proprement dit, soit dans l'association libre, le déchiffrement, la production de savoir. Avec le texte de Freud sur la gêne homosexuelle, il thématise, me semble-t-il, beaucoup plus précisément ce qu'il va appeler le schéma diphasique de l'analyse. Soit le fait qu'il appelle néanmoins l'analyse, soit le fait, pardon, que ce qu'il appelle néanmoins l'analyse, il le divise en deux phases nettement séparées. Dans une première phase, une phase d'exploration, dirons-nous, l'analyste, pour Freud, s'informe auprès du candidat à l'analyse de son histoire, de ses difficultés, de ses symptômes, l'introduit à la logique du dispositif, celui de la cure, et lui énonce la règle fondamentale. Ce n'est que dans la deuxième phase que le patient s'empare, dit Freud, lui-même du matériau mis à sa disposition, qu'il le travaille, se souvient de ce dont il peut se souvenir parmi ce qui se donne chez lui comme étant le refoulé. Et quant au reste, il s'efforce de le répéter dans une sorte de réviviscence. C'est la description classique de la cure sur la Freud. Alors, c'est pour imager cette structure diphasique de l'analyse que Freud recourt à la métaphore du voyage. Vous en souvenez sans doute. Freud compare les deux phases de l'analyse aux deux phases d'un voyage. La première phase correspondrait aux préparatifs nécessaires jusqu'à ce qu'on ait enfin payé son billet, gagné le quai, pris possession de sa place dans le wagon. C'est donc ce qu'il appelle le trajet. C'est donc ce qu'il appelle le trajet lui-même qui, aux yeux de Freud, va constituer le voyage proprement dit. Et c'est en ce voyage, pardon, que consisterait, selon lui, l'analyse. Alors, l'analysant, un voyageur, après un travailleur. Dans l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, ce que Freud nous enseigne est d'un tout autre ordre. Il y a, bien sûr, toute la phénoménologie qu'il offre de la fin de l'analyse, mais il y a aussi et surtout ce qu'il dit de l'analyse, de l'analyste, et de ce qu'on pourrait appeler son exigence de l'analyse personnelle permanente, entre guillemets. C'est une formule que qui m'est venue, et je l'ai posée. On sait qu'il s'agit là d'une forme de correction de sa première conception, qu'on pourrait dire laxiste, de l'analyse personnelle, dire en effet de celle-ci qu'elle ne peut être que brève et incomplète. Je cite Freud, l'analyse avec Freud, l'analyse sans fin, en parlant de l'analyse personnelle de l'analyste. Donc dire de cette analyse qu'elle ne peut être que brève et incomplète, et que son but essentiel est de donner au maître la possibilité de juger si le candidat peut être admis à poursuivre sa formation, ne pouvait emporter l'adhésion qu'à la condition que Freud l'ait complété de ceci. Chaque analyste devrait périodiquement, par exemple tous les 5 ans, se constituer à nouveau objet de l'analyse, sans avoir honte de cette démarche. Cela signifierait donc que l'analyse personnelle, elle aussi, et pas seulement l'analyse thérapeutique pratiquée sur le malade, cesserait d'être une tâche ayant une fin pour devenir une tâche sans fin. Fin de citation. La thèse de l'analyste analysant défendue par Pache est donc bel et bien présente chez Freud. Mais le plus surprenant peut-être, c'est de trouver sous la plume de Freud l'expression de partenaire passif, entre guillemets, pour désigner l'analysant, et de partenaire actif pour nommer l'analyste. Dans cette perspective, l'analyse est véritablement conçue comme un traitement exercé sur un objet passif et passivé, et qui est analysé par son analyste plutôt qu'il ne s'analyse avec cet analyste. On mesure dès lors la subversion accomplie progressivement par Lacan de sa critique de l'intersubjectivité et du contre-transfert à ses inventions de l'objet, de l'acte analytique et du discours de l'analyste. C'est d'ailleurs avec ce dernier frayage, celui du discours analytique, qu'est réellement fondé, selon moi, ce que j'appellerais, pour faire vite, l'identité de l'analyste comme travailleur, thèse, nous l'avons vu, que Freud et Lacan ont en partage, mais aussi et surtout son identité comme enseignant, les deux excédant proprement le temps dit de l'analyse. Pour conclure, je dirais qu'il eût été sans doute plus économique, pour dire ce qu'est un analysant, de démarquer la définition ironique que Lacan proposa pour la psychanalyse. C'est-à-dire, la psychanalyse, c'est le traitement délivré par un analyste. Le résultat aurait été, et analysant, celui qui s'analyse avec un analyste. Mais d'en passer par les signifiants de Freud montre assez, je pense, ce que Lacan a dû mettre en question, voire a dû mettre en cause, pour instaurer, avec ce terme d'analysant, ce que le discours analytique comporte de plus spécifique et apporte de plus subversif, un autre rapport à la jouissance. Voilà, je vous remercie.